Déclaration courageuse, témoignage poignant, défense bouleversante, tout ce procès émeut profondément le pays. Et le processus de la négociation que la France engage avec les rebelles se déroule inexorablement.
C'est alors qu'un nouvel orage éclate à Alger, ce qu'on a appelé le putsch des généraux.
On en apprend la nouvelle à Paris le samedi 22 avril 1961 dans la matinée par une déclaration radiodiffusée du ministre de l'Information, Terre Noire.
Le premier régiment étranger de parachutistes a fait mouvement dans la nuit vers Alger. Le premier ministre s'est aussitôt mis en relation avec le délégué général, M. Morin. Celui-ci, auprès duquel se trouvait M. Buron, ministre des Transports et des Travaux publics, lui a fait répondre qu'il n'était plus libre de ses mouvements et que des officiers du 1er régiment étranger de parachutistes, qui avaient occupé en force le palais d'été, lui avaient appris qu'ils obéissaient aux ordres du général Challes, ancien commandant en chef en Algérie. Le général Gambiez, actuellement commandant en chef des forces en Algérie, dès les premières nouvelles de la mutinerie, avait tenté de se rendre auprès des officiers commandant ce régiment. En fait, il fut fait, croit-on, prisonnier dans sa voiture.
Ainsi donc, trois généraux en retraite, Maurice Challes, André Zeller et Edmond Jouot, bientôt rejoints par le général Raoul Salan, son maître d'Alger. À Paris, une véritable défense s'organise. Les CRS affluent dans la capitale. Des arrestations de suspects, des internements administratifs, des assignations à résidence.
Il suffit d'écouter la radio pour constater l'incroyable réalité algérienne. Sur les ondes de Radio Alger, le général Challes, chef de la junte militaire, parle.
Un gouvernement d'abandon a prôné successivement l'Algérie française, l'Algérie dans la France, l'Algérie algérienne, l'Algérie indépendante associée à la France. Il s'apprête aujourd'hui à livrer définitivement l'Algérie à l'organisation extérieure de la rébellion. Voulez-vous que Merzelkébir et Alger soient demain des bases soviétiques ?
Les généraux insurgés proclament l'état de siège et décrètent un certain nombre de mesures immédiatement applicables.
Il va à exercer les fonctions de l'autorité militaire de la cité du Rabat expressément, mais sous le contrôle direct de cette dernière. Article 3. Les fonctionnaires civils et militaires doivent une obéissance absolue aux ordres du commandement. Ils sont responsables de l'accomplissement de leur mission telle qu'elle est fixée par les lois et les règlements en vigueur à compter de la déclaration de l'état de siège et jusqu'à ce qu'ils aient été relevés nommément par une décision expresse du commandement. Article 4. Les libertés et garanties fondamentales assurées par la Constitution et les lois pour la protection des citoyens sont intégralement maintenues. En particulier, nul citoyen ne pourra être poursuivi pour ses opinions personnelles, pourvu qu'elles ne soient pas accompagnées d'actes réprimés pour eux-mêmes par les lois actuellement en vigueur. Article 5. Les individus ayant participé directement à l'entreprise d'abandon de l'Algérie et du Sahara seront mis en état d'arrestation et déférés à un tribunal militaire qui sera incessamment créé pour connaître des crimes commis contre la sûreté de l'État. Ce tribunal sera lié par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales actuellement en vigueur. L'autorité militaire aura seule qualité pour ordonner les arrestations. Article 6. Les opérations de prise de tous les postes de commande dans les départements d'Algérie et du Sahara doivent se faire dans l'ordre. Les populations civiles devront suivre strictement les consignes qui leur seront données par l'autorité militaire. Aucun désordre ne sera toléré. Toute violence, toute éclation sera réprimée avec la dernière rigueur. Article 7. Le commandement est décidé à atteindre intégralement les objectifs qu'il s'est fixés pour le salut du pays. Toute résistance sera brisée, d'où qu'elle vienne. fait à Alger le 24 avril 1961, signé Généraux Charles, Jouot, Salon, Vélez. Ici Radio France à Alger.
La dissidence des quatre généraux et des colonels qui les secondent s'étend d'Alger vers l'ensemble du pays.
Le ministre Jox et le général Ollier, chef d'état-major général de l'armée, prennent l'avion pour tenter sur place d'en limiter l'extension.
Le premier ministre, Michel Debré, lance un appel à la population.
J'adjure tous ceux qui ont une responsabilité, que cette responsabilité soit d'ordre politique, d'ordre militaire, d'ordre administratif, d'ordre religieux ou social, de ne pas s'engager dans une aventure qui ne peut avoir pour la nation que de tragiques lendemains.
Des bombes explosent à Paris dans l'après-midi du samedi.
À l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire, Termoire annonce.
Il a été décidé de décréter l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire de la métropole. Il a été également décidé de déférer à la justice militaire les généraux Charles, Salan, Jouot et Zeller, ainsi que le colonel Godard.
Alger développe sa défense. Et pour la première fois apparaît l'organisation de l'armée secrète, l'OAS.
Il est interdit à quiconque de sortir avec une arme apparente. Tout contrevenant sera immédiatement arrêté et transféré devant un tribunal militaire. Se mettre immédiatement à la disposition des PC de quartier qui sont chargés de transmettre les ordres du PC central de l'OAS. Toute initiative personnelle d'opération de police sera impitoyablement sanctionnée.
À Oran. Le colonel Argout, appuyé par les parachutistes, prend la place du général de Pouilly.
À Paris, le dimanche 23, les partis et les organisations de gauche se réunissent au siège de la SFIO. Ils décident l'arrêt du travail pour le lendemain lundi à 17h. Des bombes continuent d'exploser dans les mairies, dans les gares. On annonce 40 arrestations, dont celle du général Faure. Et le soir, à 20h, le général de Gaulle fait connaître à la radio les mesures exceptionnelles qu'il prend.
Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français et d'abord à tout soldat d'exécuter aucun de leurs ordres. L'argument suivant lequel il pourrait être localement nécessaire d'accepter leur commandement sous prétexte d'obligations opérationnelles ou administratives ne saurait tromper personne. Françaises, Français, voyez où risque d'aller la France par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Françaises, Français, aidez-moi!
Cependant, le lundi 24 en Algérie, la dissidence, ici, marque le pas, là, fait tache d'huile.
Hier, nous n'étions rien. Le général Ollier faisait son inspection. Aujourd'hui, nous tenons la plus grande partie de l'Algérie avec tous les aérodromes, y compris Télérma et Constantine. Le général Ollier est en fuite.
Après Oran, voici que Constantine se rallie aux quatre généraux.
Moi, général Gouraud, votre chef. J'ai décidé de me ranger avec toutes mes unités sous les ordres du général Charles, commandant en chef interarmée en Algérie.
Et le général Salan parle au balcon du forum.
Algérienne, Algérien. Nous nous retrouvons ici, sur cette place, où ensemble nous avions fait le serment de garder l'Algérie à la France. Nous avons réussi à venir auprès de vous et auprès de vous. Nous resterons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire que nous vous avions promise ici. Et cette fois-ci, nous la réaliserons.
Puis le général Jouot.
Vous ne nous avez pas vus souvent depuis que nous sommes là, parce que nous avons du travail, nous avons beaucoup à faire, et vous ne puissions mener à bout la tâche que nous nous sommes imposée et que nous remplirons.
Commence alors pour Paris la journée et la nuit de la grande peur. Des blindés sont placés dans les principales artères et sur les places de la capitale. Des autobus sont mobilisés pour former des barrages. La population de Paris fournit 1500 volontaires qui reçoivent leurs équipements militaires place Beauvau. Et Michel Debray lance un appel désespéré à la résistance contre les parachutistes d'Alger qu'il s'attend à voir tomber du ciel.
Des avions sont prêts à lancer ou à déposer des parachutistes sur divers aérodromes afin de préparer une prise du pouvoir. Dès que les sirènes retentiront, allez-y, à pied ou en voiture, convaincre des soldats trompés de leur lourde erreur. Il faut que le bon sens vienne de l'âme populaire et que chacun se sente une part de la nation.
Le mardi 25 au matin, des nouvelles sont parvenues d'Algérie qui laisse à supposer que toutes les troupes ne se sont pas ralliées aux quatre généraux. Dans certaines unités, se sont constituées des soviets pour s'opposer aux ordres des officiers qui ont suivi le mouvement de dissidence. Dans d'autres, on a hissé le drapeau rouge. Les soldats ont entendu par les transistors les appels du gouvernement et ils y obéissent. Des avions de chasse et de transport ont déjà fui les aérodromes algériens pour rejoindre la métropole. La flotte de la Méditerranée cingle vers Alger.
Et pour bien marquer que c'est la France officielle qui continue de régner en Algérie, le gouvernement fait éclater une nouvelle bombe atomique à Reagan.
L'insurrection d'Alger perd du terrain. Le colonel Argout et les paras quittent Oran et regagnent Alger. À Sidi Bel Abbès, la Légion n'a pas bougé.
Pendant ce temps, à Paris, le gouvernement accentue sa pression. Il appelle les syndicats à son aide. Voici ce qui se passe chez Renault.
Les travailleurs de chez Renault, ouvriers, employés, maîtrise, techniciens et cadres ont tenu à manifester leur volonté de faire échec au coup de force des factieux, de mettre à la raison les généraux félons et d'exiger du gouvernement que de sévères sanctions soient prises contre eux.
Le ministre des Armées, Mesmer, lance un appel.
Je demande à chacun de faire preuve de caractère, quel que soit son grade, quel que soit son poste, pour n'obéir en aucune circonstance à ceux de leur chef en rébellion contre le gouvernement de la République.
Et au Parlement, le premier ministre Debray, au cours d'une séance houleuse, annonce les mesures exceptionnelles que le gouvernement a prises.
L'objectif du coup d'État n'est pas seulement l'Algérie. Il est toujours... de s'étendre dans la métropole. Occuper le cœur de Paris était et est encore sans doute un des objectifs recherchés. Les auteurs du coup d'État ont pris une grande responsabilité. Cette responsabilité, mesdames et messieurs, les mène immanquablement à verser le sang. Cela n'a pas encore été le fait, mais cela peut l'être demain. On sait déjà à Alger que les armes qui étaient tournées hier contre les bandes armées de la rébellion, il va falloir les tourner contre les officiers, les soldats et les fonctionnaires qui ne veulent pas s'incliner. Et que ceux-ci, s'ils reçoivent des ordres qui n'émanent pas du gouvernement, ont reçu instruction d'accomplir leur devoir, c'est-à-dire de résister par tous les moyens.
À Alger règne une grande confusion. Le général Challes a déjà envoyé par le colonel Georges de Boissieu sa reddition à Paris.
Certaines unités insurgées quittent Alger. Les généraux de la junte décident de libérer le contingent et de mobiliser 8 classes de jeunes Algériens.
Mais il est trop tard. Déjà, les troupes royalistes commencent d'investir les bâtiments officiels.
Les insurgés tiennent toujours la radio.
J'ai vécu tous les risques et tous les dangers de la résistance. Je peux vous parler de Gaulle. Nous voulions une autre France, la vraie. Partez de Gaulle, partez.
La radio est attaquée par les commandos de la marine. Un homme se précipite au micro.
Allô, population d'Alger, rendez-vous immédiatement tous sur le forum. Rendez-vous tous sur le forum.
La population d'Alger s'y rend au forum, angoissée, haletante.
Algérie, forcez ! Algérie, forcez ! Thierry, Marcel.
On ne sait pas ce qui va se passer, mais on est surtout là pour dire que nous serons toujours là. Pour l'Algérie française, vous pouvez le répéter ça.
Nous sommes là pour défendre la France.
Nous sommes là pour beaucoup plus que ça. Voilà, quand ils sont apparus au balcon, les quatre grands qui sont venus, parce qu'il n'y a que ceux-là de grands, monsieur, ils ont dit qu'ils faisaient leur sacrifice de leur peau. Il y a un moment qu'on a fait le sacrifice de leur peau. C'est pour ça que nous sommes là, monsieur, pas pour autre chose. Parce qu'on a cru que ce soir, il fallait leur en faire un cadeau de notre peau, monsieur. Même les femmes, elles sont là pour ça, monsieur. Ça, vous pouvez leur dire bien fort, monsieur. Et pas pour autre chose, monsieur. Moi, je suis de Toulon. Il y a 30 ans que je suis là. Il n'y a personne qui me fera jamais partir, monsieur. Même pas à la nage, je ne sais pas nager.
C'est l'agonie du putsch. Et à 2h du matin, Radio Alger annonce...
Ici, Radiodiffusion Télévision Française. Nous reprenons nos émissions. Algérois, Algéroises, on essaie de vous entraîner dans une lutte aussi vaine que fratricide. Rentrez donc chez vous, réfléchissez... dans le calme.
Le général Charles, transféré à Paris en avion, est incarcéré à la prison de la santé. Il sera bientôt rejoint à la santé par le général Zeller, qui lui aussi a fait sa reddition. Quant aux généraux Salan et Jouot et les colonels du putsch, ils ont pris le maquis.
La tempête qui s'était levée à l'aube du 22 avril s'est donc apaisée dans la nuit du 25 au 26. Quatre jours qui auront fait trembler la France. Le gouvernement sort victorieux du conflit, mais l'élite de l'armée française sombre dans le naufrage. Des régiments glorieux sont dissous, des unités dispersées ou refondues. Dans les semaines qui suivent, des centaines d'officiers sont placés aux arrêts de forteresse, arrêtés, déférés devant les tribunaux. Dans leur détention, ils n'en gardent pas moins un moral d'invaincu. Non, non, je ne regrette rien. Commence une impressionnante série de procès où s'analysera pendant des semaines et des semaines la crise dramatique qui a déchiré l'armée française.
La voie est maintenant redevenue libre pour la reprise des négociations entre le général de Gaulle et les dirigeants du GPRA, désormais considérés comme les seuls exclusifs interlocuteurs valables de l'Algérie. Le ministre Louis Jox annonce le 10 mai que les pourparlers vont s'ouvrir à Évian le 20 mai. Dès le début d'Évian, la France, pour témoigner de son désir d'aboutir à une solution pacifique, prend des mesures spectaculaires, trêve unilatérale, libération de 6000 internés et prisonniers FLN, transfert des 5 illustres dirigeants rebelles de leur détention à l'île d'Aix vers l'internement au château de Turquan.
Le FLN proteste contre ce qu'il estime les prémices d'une paix octroyée. Il intensifie les opérations militaires et les actes de terrorisme, nonobstant la trêve observée par la France. Les conversations piétinent. La France voudrait au préalable assurer la sauvegarde de la communauté européenne.
Belkacem Krim ne le veut pas.
Targué de la protection des ressortissants français et de la sauvegarde de leurs intérêts, c'est déjà posé comme postulat que l'État, appelé à se constituer, ne veut ou ne peut assurer cette protection et cette sauvegarde.
Jox fait alors planer la menace de la partition.
Belkacem Krim n'en veut pas.
La partition interdit le retour à la paix.
Jox propose que l'autodétermination conduise à l'association.
Belkacem Krim ne le veut pas.
Pour nous, l'autodétermination doit permettre à notre peuple d'accéder à une indépendance réelle.
Jox veut réserver la question du Sahara.
Belkacem Krim ne le veut pas.
En restreindre l'application à une seule portion de ce territoire, c'est vouloir diviser l'Algérie et nier le principe même de l'autodétermination.
Jock se veut qu'à la trêve observée par la France corresponde celle du FLN.
Belkacem Krim ne le veut pas.
Tout le monde sait que le peuple algérien a pris les armes le 1er novembre 1954 pour régler un problème politique et qu'il ne saurait logiquement les déposer tant que ce problème n'aura pas reçu sa solution définitive.
Malgré toutes les concessions de la France, c'est l'interruption des pourparlers. Le général de Gaulle envisage alors la possibilité du regroupement.
Pour que les choses puissent aboutir à un accord réel, à la paix et à la prospérité, il est bien évident qu'il faut que ce terrorisme cesse et que les deux communautés algériennes vivent l'une en face de l'autre en paix. S'il ne devait pas en être ainsi par malheur, comme il faut qu'en définitive la chose se termine, eh bien la France serait amenée à regrouper sur une partie du territoire algérien ceux qui veulent ne pas appartenir à un pays de désordre et qui voudraient par conséquent garder leur situation de Français, faute de pouvoir trouver en Algérie une situation convenable et garantie. La France ferait cela. Elle ne le désire nullement. Ce n'est pas une solution souhaitable, mais s'il fallait en venir là, comme avant tout la France veut retrouver la liberté de ses moyens, veut cesser d'engouffrer dans une tâche qui serait sans issue ses efforts, ses hommes et son argent, elle en viendrait là, en définitive, si cela était nécessaire, mais nous espérons bien que ce ne le sera pas.
Le Premier ministre Michel Debray fait le point de la situation au Parlement.
La poursuite des attentats n'est pas notre fait. Le retard apporté à l'autodétermination n'est pas notre fait. Le risque de sécession et de partage n'est pas notre fait. Si tous ceux qui parlent de l'Algérie avaient le même souci de son avenir que nous-mêmes et comprenaient que rien ne s'édifie sans la fraternité, alors l'affaire serait gagnée pour le plus grand bien de tous.
Les pourparlers interrompus reprennent le 20 juillet à quelques kilomètres d'Évian, au château de Lugrin. Au bout de la sixième séance, c'est l'ajournement à l'initiative de la délégation algérienne. On ne s'entend pas sur la question saharienne. C'est sur cet échec que commence l'été de 1961.
Quelques semaines auparavant se sont déroulés les procès des généraux du putsch et des très nombreux officiers de tous grades qui y ont participé. Les tribunaux d'exception fonctionnent désormais sans cesse. Les condamnations pleuvent, lourdes et drues. Des héros en uniforme entrent dans le box des accusés, la poitrine constellée de palmes, et en sortent après le verdict, sans décoration, pour gagner leur geôle. C'est au cours de l'un de ces procès que l'opinion apprend avec stupeur l'affaire Sissala. Au printemps de 1960, des chefs rebelles de Wilaya algérienne étaient entrés en contact avec le commandement militaire pour faire leur édition. Le plus notable d'entre eux, Sissala, avait même été reçu discrètement par le général de Gaulle. Il lui proposait le ralliement de forces FLN d'Algérie. Mais la France était alors engagée dans la voie des négociations de Melun. Sissala et conduit étaient retournés en Algérie. Il y avait été exécuté, ainsi que tous ses compagnons, dans une vaste épuration FLN. Cette effroyable purge avait démontré à l'armée que le gouvernement français préférait désormais le FLN qui égorge au FLN qui se rallie. C'est pourquoi elle avait été conduite à ce geste extrême et désespéré, se révolter contre ce qui lui paraissait une trahison au sacrifice consenti à l'intérêt de la France, à l'honneur du drapeau, à la sécurité de l'Occident.